Chapitre 55. Bienvenue à bord, Madame Lagrange. Bienvenue à bord, Monsieur Botsaris. Nikki et Sébastien récupérèrent leurs cartes d'embarquement et suivirent la charmante hôtesse de la TAM jusqu'à leur siège en classe affaires. Sébastien lui laissa sa veste, mais garda avec lui les deux précieux passeports que lui avaient remis Constance et son adjoint. Incroyable que ça ait marché, souffla-t-il en regardant la photo sur le document d'identité de Nicolas Botsaris. Ce gars a au moins 15 ans de moins que moi. Je veux bien croire que tu ne fasses pas ton âge, renchérit Nikki, mais c'est vrai que les types du poste de contrôle n'étaient pas très ailés. Avec appréhension, elle regarda par le hublot les balises qui brillaient dans la nuit. Il pleuvait à verse sur Paris. La pluie détrempait les pistes, floquant l'asphalte de fibres lumineuses et argentées. Un temps de chien qui n'était pas fait pour calmer sa phobie de l'avion. Elle fouilla dans la trousse de toilette mise à la disposition des passagers et trouva un masque de sommeil. Elle l'appliqua sur ses yeux, brancha le casque de l'iPod qu'elle avait pris dans la chambre de son fils et chaussa les écouteurs en espérant trouver le sommeil le plus rapidement possible. Dominer sa peur. Économiser ses forces. Elle savait que la partie qu'ils auraient à jouer au Brésil ne serait pas facile. Ils avaient perdu du temps à Paris. S'ils voulaient avoir une chance de retrouver leurs enfants, ils allaient devoir agir vite. Bercée par la musique, Nikki se laissa doucement envahir par le sommeil, sombrant peu à peu dans un état second, mélange de rêve et de réminiscence. À plusieurs reprises, une même sensation revint à la charge, le souvenir presque réel de son accouchement, la première fois qu'elle avait été séparée de ses enfants, que ce lien fusionnel avait été rompu après des mois de plénitude à les sentir bouger dans son ventre. Le Boeing 777 avait décollé depuis plus de 2 heures et survolait à présent le sud du Portugal. Sébastien tendit à l'hôtesse son plateau repas pour qu'elle l'en débarrasse. Il se tortilla sur son siège. Il aurait bien aimé dormir, mais il était trop nerveux pour y parvenir. Pour tromper l'ennui, il ouvrit le guide touristique que lui avait donné Constance et en parcourut les premières lignes. Mégalopole de 12 millions d'habitants, Rio de Janeiro est célèbre dans le monde entier pour son carnaval, ses plages de sable fin et son goût de la fête. Mais la deuxième plus grande ville du Brésil est aussi gangrenée par la violence et la criminalité. Avec près de 5 000 homicides enregistrés l'année dernière, l'État de Rio reste l'un des endroits les plus dangereux au monde. Son taux d'homicide, 30 fois supérieur à celui de la France, est... Un frisson le saisit. Trop angoissé par cette entrée en matière, il arrêta sa lecture au milieu d'une phrase et reposa le livre dans le filet devant lui. Pas le moment de céder à la panique. Ses pensées dérivèrent rapidement vers Constance Lagrange. Dans leur malheur, Nikki et lui avaient eu une sacrée chance de la croiser. Sans elle, ils seraient certainement en train de dormir en prison. Elle leur avait payé les billets d'avion, fourni des papiers, de l'argent et un téléphone. L'injustice qui frappait cette femme l'avait bouleversée. Foudroyée par la maladie alors qu'elle était si jeune et si vive. D'après ce qu'ils avaient cru comprendre en parcourant son dossier médical et en discutant avec elle, les dés étaient jetés. Mais l'issue était-elle à ce point gravée dans le marbre? Dans sa vie, il avait plusieurs fois croisé des gens qui, en menant un combat acharné contre la mort, avaient réussi à déjouer les pronostics des médecins. À New York, un cancérologue réputé, le docteur Garrett Goodrich, avait guéri sa mère d'une tumeur. Cela ne servirait peut-être à rien, mais il se promit de tout faire pour aider Constance à le rencontrer. En pensant à son fils, il éprouva un sentiment contrasté de colère et d'admiration. Colère devant l'inconscience de l'adolescent qui l'avait conduit à se mettre lui-même en danger et à entraîner sa sœur dans cette histoire, mais aussi une véritable émotion. Le fait que Jérémy en vienne à mettre en scène son enlèvement pour les réunir, lui et Nikki, révélait la souffrance muette qu'il avait endurée depuis leur séparation. Presque malgré lui, Sébastien ne pouvait s'empêcher d'être fier de la ténacité de son fils. Jérémy l'avait surpris, bluffé, impressionné. Sébastien ferma les yeux. En songeant aux 3 jours qui venaient de s'écouler, il fut saisi de vertige. Sa vie avait basculé en quelques heures, sortant de ses rails, échappant à tout contrôle. 72 heures d'inquiétude et d'angoisse, mais aussi d'exaltation. Car c'était indéniable, et Jérémy l'avait compris, avec Nikki, il se sentait vivant. Mi-ange, mi-démon, elle dégageait une vitalité et une espièglerie un peu adolescente combinée à un magnétisme animal qui le troublait profondément. Hanté par le danger qui planait sur leurs enfants, Ils avaient réussi à surmonter leurs différends pour faire équipe, malgré le passé, leurs caractères inconciliables et leur prédisposition au conflit. Certes, ils ne savaient toujours pas se parler autrement qu'en se disputant et chacun ruminait encore ses rancœurs, mais comme au premier jour de leur relation, il y avait entre eux une alchimie, un cocktail explosif de complicité et de sensualité. Avec Nicky, la vie prenait l'allure d'une screwball comédie. Il était Cary Grant, elle était Catherine Hepburn. Il devait se rendre à l'évidence. Il n'avait rien tant aimé que rire avec elle, se chamailler avec elle, discuter avec elle. Elle rendait le quotidien riche et intense, allumant la petite étincelle qui faisait le sel de la vie. Sébastien poussa un soupir et s'enfonça dans son siège. Une alerte clignotait cependant dans sa tête comme un rappel à l'ordre. S'il voulait avoir une chance de retrouver ses enfants, il ne devait surtout pas retomber amoureux de son ex-femme. Car si Nicky était son principal allié, elle était aussi son principal ennemi.